Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination.
Les acteurs. Mitch, dans le rôle du patron du restaurant. Aïssa, dans le rôle du maire. Mohamed, dans le rôle de Doumé. Yacine, dans le rôle de la boule. Odé, dans le rôle de Christo. Imad, dans le rôle de Sully, le narrateur. Jonathan, dans le rôle de Kadjiak. Labelette, dans le rôle du serveur, puis d'Archie. Aziz, dans le rôle du client raciste.
Extérieur jour, une brasserie sur la côte marseillaise. Le soleil chauffe l'air à blanc, la mer brille, c'est midi. Une route sépare la mer de la terrasse, comme dans beaucoup de villes du sud. La terrasse est remplie de monde, malgré la chaleur. Les clients rient, parlent fort. Des groupes d'amis se claquent la bise au milieu des pastis et des kirs. Il y a quelques familles. Les enfants sont juchés sur leurs chaises hautes, sanglés comme des petits passagers. Ils mâchonnent des cuillères, des quignons de pain, des rondelles de serviettes. Il y a des couples d'amoureux qui ne remarquent pas la vie bruyante qui les entoure, et quelques hommes ou femmes seuls qui visiblement attendent quelqu'un pour compléter leur réservation. Un peu à l'écart, contre le mur du restaurant, on voit un gamin qui traîne avec un ballon. Il doit avoir 13 ou 14 ans. Il fait des jongles dans un coin. C'est un dimanche ordinaire dans le restaurant de Vito. On y sert les meilleures pâtes au vongolais de la ville. Intérieur du restaurant. Un vieil homme est assis au comptoir. Il sirote une bière. Sa veste de costume est usée et sale. Il a un chapeau un peu élimé lui aussi, qui lui donne malgré tout l'air d'un homme au passé respectable. Vito, le patron du restaurant, s'approche du zinc en encaissant quelques billets dans la caisse enregistreuse. C'est un homme d'une trentaine d'années, au regard doux et aux joues creusées.
Alors, le maire, quoi de neuf ?
Écoute-moi bien, Vito. Moi, je dis, ceux qui savent pas, ils savent. Ceux qui savent, ils savent rien.
Ah ouais ? Et philosophe aujourd'hui, le maire ?
Remets-moi une pinte, Vito. Jacques Brel me donne envie de boire.
Ah, je sais pas si tu as vraiment besoin de Jacques Brel pour avoir envie de boire, hein, le maire.
Il lui resserre une bière. Puis la caméra s'attarde sur un homme seul. On voit d'abord son dos en amorce. Ensuite, la caméra passe sur son flanc. Il porte un costard crème, une cravate et des lunettes Cartier 4 saisons. Il boit un martini blanc. Il parle au téléphone en jetant des regards réguliers à sa montre. C'est une montre étonnamment quelconque pour un homme de cette élégance.
Oui, tu me diras. Je l'attends, ça va. On devrait être fixé très vite. Ça va, on fait comme ça, à plus. Je te tiens au jus.
La caméra descend jusqu'à ses pieds. Contre ses chaussures en cuir, il y a une petite mallette. À quelques mètres de là, trois hommes sont attablés. Doumé, La Boule et Christo. Chemise ouverte, gourmette, c'est le gang des mafieux. Ils mangent en jetant des regards discrets et réguliers à Vito, qui passe de table en table, aimable et à l'aise avec ses clients. Doumé est costaud et rougeau. Il porte une petite moustache et les cheveux gominés. On le croirait tout droit sorti du parrain. La Boule a la peau ébène et les muscles saillants. Son crâne noir et chauve est lisse comme une boule de billard. Christo, beau gosse, cheveux mi-longs, porte un catogan qui recouvre une calvitie naissante. Gros plan sur La Boule qui recrache un morceau de son cabillaud.
Oh, je rêve, ce putain de Christo a mis un cheveu dans mon plat. Sérieux?
Mais dis donc, la classe d'un resto, Doumé. Tu nous as fait faire combien de bornes pour venir bouffer chez ton coiffeur?
Hop, 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 les gars, on n'est pas là pour parler de fruits de mer. On a des affaires plus importantes à régler, non?
T'es sûr? C'est pas chez toi, c'est la boule.
Très drôle.
Les gars, j'ai une idée. Christo, appelle-moi le serveur.
Christo se lève, claque les doigts, appelle le serveur.
Serveur! Oh, serveur! Viens, viens!
Quelque chose ne va pas?
Fais-moi venir ton patron.
Accélère.
Le serveur file chercher le patron. Vito arrive.
Bonjour, messieurs. Je peux faire quelque chose pour vous?
Oh, tu crois que je suis venu dans ton resto pour me faire faire des implants ou quoi?
Pardon, je ne comprends pas.
Tu m'as bien regardé, tu as vu mon crâne? Nu comme un bébé. Pas un cheveu qui traîne. Ah, ça fait 5 ans que je m'enfile des gamelles dégueulasses. 5 ans de tôle de merde. Ah, je crois pas que je vais payer l'addition pour bouffer les cheveux de ton custo.
Ça va, laisse tomber. Là. T'es pas foutu de tenir ton restaurant?
Bien sûr que si. C'est juste une erreur, monsieur. Je vais vous faire des nouvelles assiettes et la maison vous offre le repas pour ce désagrément.
Écoute-moi, je vais te faire asseoir à la table de ton propre restaurant, moi. Vas-y, assieds.
Vito s'assoit sans dire un mot.
Dis-moi, Vito, j'ai appris que tu voulais vendre.
Qui t'a dit ça?
J'ai appris que tu voulais vendre.
Non, pas du tout, ça va. Ça fait un an que j'ai ouvert, ça marche bien, les clients sont contents. Pourquoi tu voudrais que je vende?
Ton resto, il plaît bien. Ça serait dommage de le perdre.
Vito balaye le restaurant du regard, le visage défait.
Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ton assureur, Jacopo Di Martio, non?
Comment tu sais?
Si je te dis que c'est un beau-frère à moi. Oh, tu voudrais pas que je t'envoie les minots, te foutre le feu au restaurant en pleine nuit, pendant que tu dors, et faire passer ça pour une faute professionnelle? Tu comprends ce que je veux dire, hein?
Attends. Tu veux dire quoi par là?
Je veux dire que ton resto il vaut 250 000, pas plus.
Tu le sais très bien, il vaut 500 000 euros.
Je te dis qu'il vaut 250 000, c'est clair?
À ce moment-là, on voit Darty qui passe le long de la rue qui borde le restaurant. Il fait des allers-retours avec sa radio et se pose en face de la mer.
Ils se rappellent de moi comme Vegeta, mais ils t'en parlent comme un pourri. Je suis arrivé dans ce game et je les ai haggard comme un gouri. Premier CD, il est doré, hein? Il est doré, hein? Le cercle est fermé et censuré comme la Corée, hein? C'est loin l'époque où j'allais sur YouTube pour suriner des produits.
Un client insatisfait râle en direction de Darty.
Hé, hey, toi là-bas! On peut pas bouffer tranquille ici! Vito! Dégage-moi ça, putain! On mange bien ici, mais faut toujours se farcir la racaille! Les bougnous, les bamboulas, les gitans, et maintenant les tchétchènes! Faut toujours qu'il y en ait un qui fasse le caïd! Il faut y chier ces minots avec leur musique de sauvage!
Vito coupe court à la conversation avec les mafieux racketteurs pour essayer d'aller éteindre l'enceinte de Darty qui rappe sur son son et se donne en spectacle en provoquant ouvertement le client insatisfait.
Darty, sérieux quoi? Allez gros, tu le sais que je t'aime bien, mais là c'est dimanche. Le resto est plein, s'il te plaît. Va faire péter ton son au bout de la jetée. Tu seras bien là-bas. Tu feras plaisir au moins. Personne ne viendra t'emmerder.
C'est un problème? Un ruelle à tout le monde. Moi je te dérange? Je te dérange moi? Et tes clients racistes qui insultent tes potes, ça te dérange pas? Fais gaffe hein, t'as changé Vito. Je la pète avec ton resto. Tu crois que c'est parce que tu reçois de la clientèle aux pompes cirées que tu vaux mieux que les autres?
Je me sens seul, j'ai pris l'escalier parce qu'il marche pas dans mon sens. Eux, ils ont pris l'ascenseur, moi, ma chance.
Écoute, fais pas chier putain. Regarde, les gens sont bien, détends-toi Darty. Je te jure, j'ai eu mon compte pour la journée. Je voudrais arriver à finir mon service sans que le resto se vide. Allez, barre-toi maintenant.
Darty joue avec le son fort et faible, continue son manège et danse sur place en écoutant la musique. Des touristes passent en rigolant. Vito retraverse la rue et rentre dans le restaurant, près du comptoir, où le maire observe tout depuis son tabouret.
Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, le maire. Je sais pas si c'est la chaleur. On dirait que j'ai pas de chance. Il y a des jours où le vent, il va pas où tu veux.
Moi, je dis une chose. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Changement de plan. La caméra revient sur l'homme à la mallette. La chaise en face de lui est toujours vide. Depuis qu'il est arrivé, il ne cesse de regarder sa montre nerveusement. Visiblement, son client lui a fait faux bond. Il redresse la tête, agacé par le son de la radio et puis n'y tenant plus, il se lève d'un coup. Le petit garçon qui jouait au ballon se précipite sur la manette. Personne ne l'a vu. Il a glissé léger et furtif entre les tables et l'asphalte, à la vitesse d'un lézard. Gros plan sur la main de l'homme qui se referme d'un coup sec sur la poignée de la mallette.
Oh, tu fais quoi là, petit? Tu veux me tirer les pompes, c'est ça? Vas-y, je t'en prie.
Son autre main attrape l'oreille du garçon. Le visage de l'enfant se tord de douleur, mais il ne bronche pas.
Tu viens d'où, toi? T'es tout seul? Elle est où, ta mère? T'as pas mieux à faire que de voler à ton âge?
Le petit se dégage et au lieu de s'enfuir, reste sur place. Il plante ses yeux dans ceux de l'homme à la mallette.
Tu sais que t'es un bon, toi? À une seconde près, tu réussissais ton coup.
Le petit ne bouge pas. Ses yeux s'enfuient rapidement vers la mallette et retour.
T'as envie de savoir ce qu'il y a dedans? Maintenant, je peux te le dire, puisque tu l'auras pas. Assieds-toi, je vais te raconter une histoire. T'as encore l'âge des histoires, non?
Il tire une chaise et invite le garçon à s'asseoir.
Tu vois, moi j'aime bien les cartes au trésor. Les trucs qui brillent, les bijoux. J'ai toujours aimé le luxe, c'est comme ça. On m'appelle Cadillac. J'ai un magasin à Barcelona. Tu connais Barcelona? Le FC, hein? Tu connais? De l'extérieur, elle paye pas de mine, ma boutique. Les gens, ils rentrent avec un truc à vendre, je le rachète à moitié prix et je le revends, double ou le triple. Tu comprends le principe, hein? Ouais, tu sais de quoi je te parle. T'as vite appris à compter, toi, ça se voit. Un jour, une petite vieille arrive. C'est un matin de janvier. Il est 9h. Je viens d'ouvrir le rideau de fer. C'est la première cliente du jour. Buenos dias, buenos dias. Elle me dit, comment est-ce? En Espagne, les gens sont chaleureux. Ils sont plus confiants. Elle a au moins 85 ans. Elle traîne un caddie pas plus haut qu'elle. Pas plus haut que toi. Elle sentait très fort, cette dame-là. Elle sentait l'intérieur de chez elle. Ça se voyait qu'elle sortait pas beaucoup. Elle avait une bonne raison de sortir. Quand j'ai senti cette odeur, j'ai senti l'odeur de l'argent. Les gens, dans ce quartier, quand ils sortent de chez eux, ils sentent le Chanel jusqu'à 11h. Ben elle, ça sentait pas le Chanel. Ça sentait le chameau. Elle me dit, « Quisería vender mi anillo. » Je voudrais vendre ma bague. Je vois que la bague est ancienne. Elle m'en demande 500 euros. Je lui dis, « C'est très bien. Pourquoi ce prix ?» C'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, 500 pesetas. J'ai tout de suite compris que la dame était restée bloquée dans le temps et que si elle ne vendait pas cette bague aujourd'hui, elle serait à la rue demain. Alors je sors mon outillage de sous le comptoir pour contrôler la pureté de l'or. Je sors ma plaque, je frotte légèrement la bague sur la plaque, j'applique l'acide. C'est lui qui me donnera la valeur de l'or. Je vais t'expliquer comment on fait. Il y a trois acides qu'on passe l'un après l'autre. La trace laissée par l'or sur la plaque s'efface, reste ou change de couleur, du gris au vert pomme. J'ai un acide 9 carats, un 14 carats et un 18 carats. La bague ressort à 18 carats. Elle pèse 21 grammes. Ça, c'est le montoir seulement. Reste à contrôler le diamant. Je le décrasse et je vois que le diamant n'est pas cassé. Il est en bon état malgré les années. Il n'est pas rayé. La saleté l'a protégé. Je vois que le diamant est plein de facettes. Plus un diamant a de facettes, et plus il monte en valeur. C'est le travail qui donne la valeur. Un bout de diamant tout seul, ça vaut rien. Ça vaut des millions, mais ça vaut rien. 500 euros, vous m'avez dit? Je sors ma calculette, je lui monte l'écran, 483 euros. Je vous arrondis à 500, ça vous va? C'est ce que vous vouliez? La dame était très contente, je l'ai payé. Tu vois la chaise vide en face de moi? C'est pas bon signe. Le mec que j'attends depuis une heure, il vient de me planter. C'est un diamantaire qui vient d'Anvers, en Belgique. Il faisait le trajet exprès. La bague est dans la mallette. Il allait m'en donner 60 000 euros. Je sais pas ce qu'il fout, je sais pas pourquoi il est pas là. Je sais pas s'il est en train de me préparer un sale coup. On sait jamais dans ce milieu. Reste près de moi, gamin. T'es un bon bouclier. On touche pas au gamin. La preuve, j'aurais pu te mettre une raclée dont tu te souviendrais. Mais à la place, je te raconte une histoire. Ça protège les histoires. Rappelle-toi de ça. C'est pour ça que je parle beaucoup. Pendant que je te parle, personne ne peut me toucher. Reste là, ne bouge pas.
Toujours attablés comme des vautours qui attendent la pitance, les mafieux observent la scène de loin. La caméra se pose sur Christo, le beau gosse. Il fait signe au gamin.
Viens voir par là, Minou. Tu fais des sacrés jongles, dis donc. T'aimes ça, le foot, on dirait.
L'enfant fait oui avec la tête. Le maire se lève de son tabouret et se dirige vers les mafieux d'un pas décidé.
Allez, laissez-le filer, le gosse. Gardez vos grosses pattes sur vos pastis. Ça a mère assez de problèmes comme ça.
Christo lance un regard complice à Doumé.
Tu sais, t'es pas un champion, là.
Il désigne Christo. Le petit lève la tête, son visage s'allume. Tout son corps se déplie.
Regarde-moi, tu me vois là. J'ai pris un peu de bedaine, j'ai perdu mes cheveux, mais il n'y a pas si longtemps, je faisais des jongles, comme toi, devant 30 000 spectateurs. Et ouais, j'ai joué en Ligue 2. T'as du potentiel, tu sais, j'ai l'œil. Ça fait un bon quart d'heure que je t'observe. Ça te dirait de tenter ta chance? Je connais encore du monde dans le milieu. Je peux te dégoter un stage à l'Olympique. Ils font des matchs. Il y a des recruteurs. La sélection est rude, mais si tu bosses bien, t'as toutes tes chances, Minou. Et puis, tu seras sous ma protection. Tu vois ce que je veux dire? On s'arrange, entre hommes. Donnant, donnant, hein, Minou? Qu'est-ce que t'en penses?
À cet instant précis, ma vie aurait pu basculer. J'étais à un carrefour, coincé entre deux routes. Parce que le petit garçon qui est là, planté au milieu de ces deux tables, entre un bijoutier receleur et un footballeur mafieux, c'est moi. Je me présente, je m'appelle Sully. À cet instant précis, j'ai 13 piges. Et à cet instant précis, j'aurais pu devenir Messi ou Ronaldo. J'aurais pu aussi devenir Spaggiari ou Arsène Lupin. Mais dans un cas comme dans l'autre, il fallait payer. Il fallait choisir son camp. Rien n'est gratuit, et ça, je le savais déjà. Flashback.
3 ans plus tôt, l'intérieur d'un appartement, le matin. On est dans la cuisine, une femme s'active, on suit ses gestes. Elle coupe du pain, elle fait bouillir du lait, elle passe ses mains sous l'eau qui coule du robinet. Autour de la table, une tripotée d'enfants, 5, tous des garçons, entre 3 et 16 ans environ. Ils ont encore les yeux gonflés de sommeil. Tout le monde est occupé à avaler son petit déjeuner bruyamment. Tout à coup, un bruit de sonnette. Gros plan sur le visage de la femme qui dit « Sully, va voir c'est qui s'il te plaît ». Un enfant d'une dizaine d'années se dégage de sa chaise, sort de la cuisine exiguë et va regarder par l'œilleton de la porte d'entrée. À travers l'œilleton, on voit, déformé par la perspective, deux hommes, tenue droite, disciplinés, costume noir, chaussures en cuir noir. L'un d'eux tient une mallette. Changement de plan. On est toujours dans l'appartement. Mais Sully, l'enfant, est maintenant collé le dos contre la porte de la cuisine, côté couloir. Il observe la scène. Sa mère est debout dans l'entrée. Elle a un papier à la main. Elle pleure. Elle jette un regard à son fils qu'elle surprend en train d'épier. On entend, puis on voit deux hommes en noir se déplacer dans l'appartement. Ouvrir les portes. Soulever les objets. La femme dit à Sully, retourne à la cuisine. Dis à tes frères de faire doucement et de bien se tenir. Je veux pas vous entendre. Sully s'exécute.
Cette scène des huissiers qui ont débarqué un jour chez nous, je me la suis passée en boucle un millier de fois. Le regard de ma mère, plein de honte, comme si un piège se refermait sur elle, il est gravé. Parce qu'à partir de là, ça avait fait comme une étincelle dans ma tête de gosse. J'ai grandi d'un coup. Je me suis mis à voler tout et n'importe quoi. Je me disais tout le temps, il faut qu'on s'en sorte. Et puis on m'a filé des petites missions. Je me postais en haut de l'immeuble, il fallait siffler. Parfois, je déposais un colis dans une poubelle. Des trucs faciles, des trucs sans conséquences. On me donnait ma part, ça me rendait fier. Je me sentais utile. Ma mère fermait les yeux, ça lui plaisait pas, mais elle était prise à la gorge. L'escalade, tranquillement, jusqu'à que je me retrouve là. À regarder cette mallette, comme un bonbon irrésistible. À me dire, allez, j'y vais tout seul. On croit toujours que ça va être simple. La suite de l'histoire pourrait se passer comme ça.
Changement de plan, extérieur jour. On suit une voiture, c'est une Audi RS3, noire, vitre teintée. Elle roule à plein régime sur la corniche. Long travelling sur la route qui borde le restaurant.
Elle s'arrête. Deux hommes descendent.
Everybody, close the robbery!
Ils ont des flingues.
Un Beretta 9mm
et un Colt 45.
Ils s'approchent de la terrasse et se dirigent droit sur Cadillac.
Ils le braquent.
Que personne ne bouge!
Un des hommes armés empoigne Cadillac et le pousse de force dans la bagnole.
L'autre gueule.
Elle est où la mallette? Putain, elle est où?
Panique. Coup de feu.
Cartier revient avec son enceinte et fonce sur le client raciste.
Je vais te faire bouffer ton enceinte à la con, espèce de taré de tchétchène.
Ça dégénère. Baston général. Des dents qui tombent et ricochent sur le bitume. Une bonne dose d'hémoglobine. Peut-être même un gros plan sur un œil crevé. Une nuque qui craque. Et allez. L'apothéose. Grand ralenti sur une bague qui vole. Caméra sur les yeux de Sully qui suivent le trajet. Sa main se lève, s'ouvre et l'attrape. Fin.
Cette scène n'a pas eu lieu. Ou peut-être que si. Elle a eu lieu dans des centaines de films. La réalité est moins spectaculaire. Quoique. Tous les personnages sont des acteurs. Toute ressemblance avec des faits réels est fortuite.
Une création coécrite et interprétée par des personnes détenues à la structure d'accompagnement à la sortie du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes. Imad, Ulrich, Aïssa, Jonathan, Sofiane, Mohamed, Aziz, Yacine, Nicolas, Rafik et Kamal. Dramaturgie et réalisation, Sarah Louis. Accompagnement technique, Florentino Javier Gorleri. Mixage, Sylvain Mazins. Production, Caroline Cacaval, lieu fictif. Musique et extrait de bande originale des films La Nuit américaine, avec la voix de François Truffaut, Mulholland Drive, Le Parrain, Talon Aiguille, Drive, Pulp Fiction. Et la chanson 3 minutes 6 de